sait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimic. XXe siècle, alors que les grandes métropoles américaines s'élèvent déjà dans les hauteurs d'acier, que Chicago fabrique ses mythes et New York ses gratte-ciels, il existe une autre Amérique. Une Amérique plus rude, plus nue, plus âpre. Une Amérique oubliée. On l'appelle le Southern Illinois. Mais à cette époque, ce territoire porte un autre nom, plus inquiétant, presque biblique. Little Egypt. Un lieu où les mines de charbon dévorent les collines, où les routes de terre se perdent entre les forêts et où les petites villes surgissent sans jamais s'enraciner complètement. On y vit dur, on y travaille dur, et on y meurt parfois encore plus brutalement. La région est à la fois agricole et minière, traversée de tensions profondes, tensions sociales, tensions raciales, tensions religieuses. Les syndicats miniers se battent pour survivre, les manias industriels contrôlent les villes comme des seigneuries, et les autorités, faibles, divisées, corruptibles, peine à imposer le moindre ordre. Puis arrive 1920, et en cette année, une loi qui bouleverse tout, la prohibition. Certains protagonistes marquent cette période. L'un d'eux, Charlie Birger. Voici son histoire.
Change gonna come at last.
avec l'arrivée de la prohibition, du jour au lendemain, fabriquer, transporter ou vendre de l'alcool devient un crime. Mais boire reste un besoin. Et quand la loi nie un besoin, la rue invente un marché. Dans les grandes villes, Chicago, Détroit, New York, les syndicats criminels s'organisent rapidement. Mais dans les zones rurales, ils prennent la forme de clans, de bandes armées, souvent proches de la population, parfois protectrices, parfois prédatrices. Dans le Southern Illinois, l'alcool illégal devient une religion. Les caves se transforment en distilleries clandestines, les chemins forestiers deviennent des routes de contrebande. Les exploitations agricoles, souvent pauvres, se mettent à produire du moonshine, de l'alcool de contrebande, à la place du maïs. C'est dans cet environnement troublé que la région va entrer dans une décennie de violence extrême, marquée par les affrontements entre différentes organisations criminelles, les guerres de territoire, et un chaos qui fera ressembler ces plaines du Midwest à un Far West tardif. Et au cœur de ce chaos, un nom va s'imposer, un nom à la fois craint et respecté, celui de Charlie Birger. Charlie Birger, de son vrai nom Sachna Itzik Birger, naît dans l'Empire russe au sein d'une petite communauté juive vouée à disparaître dans les pogroms qui marquent la fin du 19e siècle. Quand sa famille arrive aux États-Unis, il n'apporte rien d'autre que quelques vêtements, des souvenirs et un instinct de survie. Comme tant d'immigrants, Birger découvre une Amérique qui promet tout, mais qui n'offre rien gratuitement. Très jeune, il ressent le besoin de prouver qu'il appartient à cette terre, qu'il n'est pas qu'un fils de réfugié. Il s'engage dans l'armée, devient cavalier, apprend à tirer, à se battre, à survivre. Il en ressort avec deux certitudes fondamentales. Le monde est violent et seuls les déterminés survivent. La loyauté n'est pas un luxe, c'est une dette entre hommes. Lorsque Charlie quitte l'armée, Il n'est plus un gamin d'Europe de l'Est. Il est un soldat américain, dur, endurci et prêt à affronter un pays aussi brutal que lui. Lorsqu'il s'installe dans le Soussan-Illinois, dans les années 1910, la région est déjà un volcan. Les mines tournent sans relâche, les accidents et les morts sont si fréquents qu'on a cessé de compter. Les travailleurs, payés au lance-pierre, vivent dans des villes créées pour eux, des alignements de cabanes en bois contrôlés par les compagnies minières. Les patrons disposent de milices privées, les syndicats organisent des raids armés et les grèves virent souvent à l'émeute. À cela s'ajoute une autre force, plus insidieuse, le Ku Klux Klan, en plein renouveau. Dans les années 1920, le Ku Klux Klan connaît son apogée historique, bien différente du KKK de la reconstruction des années 1860-70. Cette seconde incarnation, relancée en 1915, devient un mouvement de masse, public et structuré, atteignant 4 à 6 millions de membres vers 1924-1925. Contrairement aux clans clandestins d'origine, ce KKK organise des cotisations, publie des journaux, tient des réunions officielles et défile publiquement, comme lors de la célèbre marche de 40 000 membres à Washington DC en 1925, cagoule sur la tête ou non. Le KKK des années 1920 est avant tout nativiste et suprémaciste. S'il conserve son hostilité envers les Afro-Américains, il élargit sa haine à d'autres groupes, catholiques, juifs, immigrants récents d'Europe du Sud et de l'Est, syndicalistes et socialistes, prenant le credo « White, Protestant, Native-born Americans ». Cette idéologie lui permet d'étendre son influence jusqu'au pouvoir politique, notamment dans des États comme l'Indiana, le Colorado, l'Oregon et le Texas, où il soutient des gouverneurs, maires, shérifs et juges. Le clan se présente comme un gardien de la moralité et de l'ordre social, soutenant la prohibition et l'éradication de l'alcool et du vice urbain. Cependant, beaucoup de membres sont corrompus et certains collaborent avec des bootleggers. La prohibition devient alors un prétexte pour exercer un contrôle social et politique sur la population. La violence demeure un outil fondamental. Lynchage, passage à tabac, incendie de croix et menaces publiques sont monnaie courante, souvent tolérées ou couvertes par les autorités locales. À partir de 1925, le clan amorce une chute rapide. Affaires criminelles impliquant ses dirigeants et divisions internes affaiblissent son influence. Néanmoins, même en déclin, le Ku Klux Klan ne disparaîtra jamais totalement. Cette période illustre de manière frappante comment le racisme et la haine peuvent devenir institutionnels et populaires, tout en se présentant sous un vernis légal et moral, et rappelle que le clan des années 1920 n'était pas un phénomène marginal, mais bien un mouvement de masse profondément enraciné dans la société américaine. Un siècle après son apogée, le Ku Klux Klan est devenu un groupe marginal et fragmenté, très éloigné de la puissante organisation de masse des années 1920. Il ne compte aujourd'hui que quelques milliers de membres, dispersés dans de petites factions, souvent en conflit, et n'exercent plus d'influence politique notable ni de présence publique massive. Contrairement à l'époque des grandes marches nationales et des gouvernements locaux contrôlés par le clan, son action se concentre désormais sur la propagande en ligne, le recrutement ciblé et le harcèlement local. L'idéologie du KKK moderne reste fondamentalement raciste et suprémaciste, visant principalement les Afro-Américains, les immigrés, les Juifs, les musulmans et les personnes LGBT. Cette haine s'exprime moins par des rassemblements publics que par des messages diffusés sur Internet et des actions symboliques isolées, comme des incendies de croix ou des manifestations locales, toujours surveillées par les autorités et largement condamnées par la société. Si son influence directe sur les institutions a disparu, le clan contribue encore à un climat de peur et de division, et ses idées peuvent se retrouver amplifiées dans certains groupes extrémistes contemporains, y compris les milices ou mouvements identitaires. La lutte contre ces formes modernes de suprémacisme blanc repose principalement sur les lois anti-haine, la surveillance fédérale, les ONG anti-racisme et l'éducation civique. Aujourd'hui, plusieurs groupes contemporains partagent l'idéologie suprémaciste blanche et la haine raciale du clan, même si leurs formes, stratégies et noms diffèrent. Certains sont directement héritiers ou affiliés au clan historique. C'est le cas de l'United Clans of America, organisation fragmentée, fondée sur la tradition du clan des années 1960. Les Knights of the Ku Klux Klan, présents sous forme de chapitres locaux, souvent actifs dans le sud des États-Unis. Les White Knights of the Ku Klux Klan, qui maintiennent des chapitres régionaux parfois impliqués dans des actions symboliques ou du harcèlement local. D'autres groupes, sans porter le nom du KKK, reprennent ces idées et méthodes au sein de l'idéologie néo-nazie et suprémaciste blanche. Parmi eux, on trouve Aryan Nations, prônant un christianisme raciste, le National Socialist Movement, parti néo-nazi légal aux États-Unis, la milice extrémiste The Base et l'Atomwaffen Division, groupe clandestin violent adhérant à une idéologie suprémaciste et nihiliste. À cela s'ajoutent des milices et mouvements identitaires liés à la droite radicale, comme les Proud Boys, mouvement masculiniste et nationaliste parfois associé à la suprématie blanche, les Free Percenters ou Wasp Keepers, milices anti-gouvernementales avec des éléments racistes et xénophobes, ou encore l'American Identity Movement, qui promeut le nationalisme blanc et l'opposition à l'immigration. Ces groupes diffèrent du KKK historique par leur stratégie et leur organisation. Ils sont fragmentés, sans mouvement national unifié, et privilégient aujourd'hui la propagande en ligne via forums, réseaux sociaux, vidéos et outils de cryptographie. Leurs actions concrètes sont souvent locales, harcèlement ciblé, diffusion de symboles racistes, et parfois, violence limitée. Contrairement au clan des années 1920, ils sont également plus prudents vis-à-vis de la loi et agissent souvent de manière clandestine pour éviter les poursuites. Ainsi, le Ku Klux Klan reste un symbole durable du racisme institutionnel et des violences raciales aux États-Unis, mais son pouvoir et sa visibilité ont radicalement diminué. L'histoire du clan rappelle que la haine peut ressurgir sous des formes nouvelles et fragmentées, ce qui rend la vigilance sociale et l'éducation contre le racisme plus essentielle que jamais.
Till another year. Well, I am this, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day?
It's Tommy. They got Tommy.
Oh, my God.
Sweet Jesus, we gotta save him.
I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour come and go.
Color guard.
And then I come, take the soul, leave the body and leave it for. Won't you spare me over till another year?
Brothers! Oh, brothers! We are all gathered here to preserve our hallowed culture and heritage from intrusion, inclusion, and dilution of color, of creed, and of our old-time religion. We aim to pull evil up by the root before it chokes out the flower of our culture and heritage. And our women, let's not forget those ladies, y'all, looking to us for protection from darkies, from Jews, from papists, and from all those smart-ass folks say we come descended from monkeys. That's not my culture and heritage.
Yes.
Is that your culture and heritage?
No.
And so, we gonna hang us a Negro.
Dans l'Illinois des années 1920, le clan n'est pas une secte marginale. C'est un mouvement de masse. Il recrute chez les protestants, les commerçants, les élus locaux. Il prêche la sûreté, la morale, la prohibition, la défense d'une Amérique blanche et protestante. Il déteste les catholiques, les italiens, les juifs, les mineurs immigrés, les syndicats, les étrangers. Autant dire que Charlie Birger, juif, immigré, buveur, soldat, protecteur des mineurs, coche toutes les cases. L'affrontement est inévitable. Mais Birger, à cette époque, n'est encore qu'un homme parmi d'autres. Un cavalier devenu mineur, puis convoyeur, puis petit contrebandier. Pour survivre dans ce climat, il s'entoure d'hommes qui lui ressemblent. Des marginaux, des immigrés, des vétérans, des mineurs, des cow-boys perdus. Ce noyau deviendra plus tard le Birger Gang. Le début d'une nouvelle ère, une ère d'hypocrisie et de violence. La prohibition rend illégal l'alcool, mais elle ne supprime pas la soif. Dans le Southern Illinois, les autorités sont trop corrompues pour faire appliquer la loi. Les routes rurales deviennent des autoroutes de contrebande, les fermes deviennent des distilleries. Deux forces dominent alors la région. Les Shelton Brothers, mieux armés, plus structurés, avides de pouvoir, et le Ku Klux Klan, qui se voit en police morale et entend contrôler le trafic d'alcool. Birger, lui, commence petit, mais il a un avantage décisif. Le peuple l'aime. Il protège les petits producteurs de moonshine, il restitue des biens volés, il combat les intimidations du clan, il aide parfois les mineurs en grève. Birger devient un hors-la-loi, mais dans le cœur de beaucoup, un justicier.
Let me tell the story. I can tell it all, about the mountain border and illegal alcohol. His daddy made the whiskey, son, he drove the load. When his engine roared, they called the highway Thunder Road. Sometimes into Asheville, sometimes Memphis town. The revenuers chased him, but they couldn't run him down. Each time they thought they had him, his engine would explode. He'd go by like they were standing still on Thunder Road.
And there was thunder, thunder, all over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was moonshine, moonshine, twice the devil's thirst.
The law they swore they'd get him, but the devil got him first. On the 1st of April, 1954, a federal man sent word he'd better make his run no more. He said 200 agents were covering the state. Whichever road he tried to take, they'd get him sure his fate. Son, his daddy told him, make this run your last. Your tank is filled with 100 proof, you're all tuned up and gassed. Now don't take any chances. If you can't get through, I'd rather have you back again than pull that Mountain Dew.
And there was thunder, thunder, all over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was moonshine, moonshine to quench the devil's thirst.
The law they swore they'd get him, but the devil got him first. Roaring out of Harlan, revving up his mill, he shot the gap at Cumberland and screened by Maynardville. With G-Man on his taillight, roadblocks up ahead, the mountain boy took roads that even angels feared to tread. Blazing right through Knoxville, out on Kingston Pike, then right outside of Bearden, there they made the fatal strike. He left the road at 90, that's all there is to say. The devil got the moonshine and the mountain boy that day.
And there was thunder, thunder, over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was moonshine, moonshine, quenched the devil's thirst.
The law they never got him, 'cause the devil got him first. Law they never got him, 'cause the devil got him first.
Thunder, thunder, thunder.
Pour Charlie Birger, le début des hostilités a lieu lorsqu'un officier du clan tente de faire fermer une taverne appartenant à un de ses amis serbes. Charlie intervient, humiliant les membres du clan et les renvoyant sans tirer un seul coup de feu. C'est l'étincelle. Le clan réplique par des incendies de distilleries clandestines liées à Birger, puis par des menaces, puis par des attaques. Birger répond par la force. Un soir, une fusillade éclate sur plusieurs kilomètres. Trois voitures traversent la campagne à toute vitesse. Devant, les hommes du clan. Derrière, Birger et ses tireurs. Au bout de la course, deux membres du clan sont blessés. Un troisième disparaît dans les bois. C'est officiel, la guerre est déclarée. Pour tenir tête au clan, Birger renforce ses positions. Il transforme une auberge isolée, Shady Rest, en un quartier général. C'est à la fois une forteresse et un refuge pour les immigrés persécutés par le clan, mais également un dépôt d'armes et un centre logistique pour le trafic d'alcool. Autour de lui, on trouve une galerie de personnages dignes d'un roman noir. Chauffeur casse-cou, tireur d'élite, mineur expert en dynamite, vétéran instable, bagarreur au grand cœur. Shady Rest devient un symbole, l'endroit où on peut venir si l'on a besoin de protection, l'endroit où le clan n'entre pas. Mais tandis que Birger affronte le clan, un autre conflit monte, la guerre ouverte contre les Shelton Brothers. Les Shelton sont plus nombreux, plus riches, mieux organisés. Et surtout, ils bénéficient parfois de la bénédiction silencieuse du Ku Klux Klan, ravis d'aider un rival à abattre un adversaire. Les années qui suivirent transforment Little Egypt en zone de guerre. Explosions nocturnes, assassinats aux fusils mitrailleurs, embuscades sur les routes, enlèvements, exécutions. Des paysages ruraux paisibles deviennent le théâtre de violences qui stupéfient le reste du pays. Peu à peu, Birger commence pourtant à prendre l'avantage. Les Shelton subissent revers après revers. Les forces du clan se désorganisent. Mais Birger, lui, s'épuise. Les autorités de l'État, excédées, décident de frapper fort. tout bascule avec le meurtre du shérif Joe Adams, attribué à Birger, mais celui-ci nie. Certains disent que les Shelton l'ont piégé, d'autres affirment que les autorités voulaient une raison de l'arrêter. Quoi qu'il en soit, l'État de l'Illinois voit là l'occasion de mettre fin à cette guerre de clans. Birger est arrêté, jugé et condamné. C'est ainsi que le 19 avril 1928, la dernière pendaison publique de l'Illinois est organisée à Benton dans le comté de Franklin. Birger arrive calmement, encadré par des gardes. À sa demande, un rabbin l'accompagne vers la potence. Il exige également que sa capuche soit noire, pas blanche. La déclaration est claire. Il refuse d'être confondu, même un instant, avec un membre du Ku Klux Klan. Il salue l'exécuteur, Philip Hanna, surnommé le bourreau humain, réputé pour offrir aux condamnés une exécution rapide et digne. Ses derniers mots, selon les journaux, sont « It's a beautiful world ». Mais la légende du sud de l'Illinois dit autre chose. Une phrase lancée avec un sourire, face à la mort. « It's a beautiful day ». Puis, la trappe s'ouvre et Charlie Birger disparaît pour l'éternité. Mais comment se souvenir de Charlie Birger? Comme d'un criminel? Oui. Comme d'un chef de clan, d'un contrebandier violent? Évidemment. Mais aussi comme d'un homme qui, dans une région déchirée par la haine et la peur, refusa de baisser les yeux devant le Ku Klux Klan. Comme d'un immigrant qui devint un symbole pour les mineurs, les étrangers, les exclus. Comme d'un hors-la-loi que certains appelaient un justicier. Birger n'a jamais prétendu être un héros. Mais dans les heures les plus sombres de Little Egypt, il fut un rempart. Et aujourd'hui encore, dans les bars et les mines abandonnées de Sossan, Illinois, son nom résonne comme celui d'un homme qui, jusqu'au dernier instant, refusa d'avoir peur.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
It for a while, think I see my father coming riding many a mile. Oh, father, have you brought me gold? Have you paid my fee? Or have you come to see me hung upon the gallows tree? Have you come to see me hung upon the gallows tree? Well, you stole the bishop's golden ball, you stole his silver key, and I have come to see you hung upon the gallows tree. I have come to see you hung upon a gallows tree. Slack your rope, hangman, slack it for a while. Think I see my mother coming riding many a mile. Oh, mother, have you brought me gold? Have you paid my fee? Or have you come to see me hung upon a gallows tree? Have you come to see me hung upon a gallows tree? You would not make my feather bed nor brew me a spot of tea, so I have come to see you hung upon a gallows tree. I have come to see you hung upon a gallows tree. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see the devil coming riding many a mile. Devil, have you brought me gold? Have you paid my fee? Or have you come to see me hung upon a gallows tree? Have you come to see me hung upon a gallows tree? Well, I stole the bishop's golden ball, I stole the silver key, and I have come to steal your soul upon this gallows tree. I have come to steal your soul upon this gallows tree. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see my true love coming riding many a mile. Oh, true love, have you brought me gold? Have you paid my fee? Or have you come to see me hung upon a gallows tree? Have you come to see me hung upon a gallows tree? Well, you don't need no bag of gold, I've done paid your fee. Well, jump right down to my arms, you're coming home with me. Jump right down into my arms, you're coming home with me.
Je sombre dans l'enfance quand elle me berçait dans ses bras, maman. Fin de trait. Tout doucement vient l'exquise jouissance. qui m'arrache l'échine de son spasme brûlant. Pâle, abandonné à ma seule innocence. Dernier râle d'amour, je prends du bon temps. Fin de chair. Voici l'aube qui pointe. Doux, tout doucement, le soleil fait un signe. Il viendra tantôt me réchauffer les flancs. Noircir ce grand corps tout gonflé de vermine. Fin de trait, doux, tout doucement, la corde me ronge. Mon esprit tantôt s'en va quitter mon corps, puis ma tête ira se rafraîchir à l'ombre au pied du gibet où je pends tristement. Fallow Jack, cru cruellement les corbeaux crédules vont me becter les yeux bouffés, mes ornements se remplir la panse de ma sombre infortune. Rien gaver leurs petits des restes du mourant. Fade, doux, doucement, je me balance. Tout abandonné aux caprices des vents. Les yeux grands ouverts, je sombre dans l'enfance. Quand elle me berce dans ses bras, ma maman va de tuer. Quand elle me berce dans ses bras, ma maman.
Scarlet bomb, the walls are bad, black bomb kind. They are the sick breath and they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go.
Les faits des faits. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.
Was down in Mississippi not so long ago, when a young boy from Chicago town walked through the southern door. Faithful tragedy, you should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. Some men, they dragged him to a barn, and there they beat him up. They said they had a reason, but I just remember what. They tortured him and did some things too evil to repeat. There was screaming sounds inside the barn. There was laughing sounds out on the street. Then they rolled his body down a gulf amidst a blood red rain, and they threw him in the waters wide to cease his screaming pain. The reason that they killed him there, and I'm sure it ain't no lie, was just for the fun of killing him and to slowly watch him die. And then to stop the United States of yelling for a trial, to brothers, they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury, there were men who helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery, but nobody seemed to mind. I saw the morning papers, but I could not bear to see the smiling brothers walking down the courthouse stairs. For the jury found them innocent, and the brothers, they went free. While Emmett's body floats afoam of a Jim Crow southern sea. If you can't speak out against this kind of thing, the crime that's so unjust, your eyes are filled with dead man's dirt, and your mind is filled with dust. Must be in shackles and chains, and your blood it must refuse to flow for you to let this human race fall down so god awful low. This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today. That ghost rope to Klux Klan. But if all us folks that thinks alike, if we'd give all we could give, we'd make this great land of ours a greater place to live.
Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.